au sommet de la recherche philosophique, après avoir étudié le devenir, le vivant, le devenir immanent du vivant, le philosophe étudie ce qui est en tant qu'il est. C'est Aristote qui a précisé le premier d'une façon aussi nette. Parce que Parménide, qui regarde l'être, en réalité, l'être et sa manière d'être sont bloqués. Alors, l'être en soi. Aristote ne fait pas cela. C'est dans le jugement d'existence. Premier jugement. L'intelligence liée au toucher. Le toucher, c'est le sens de l'existence. Hein. C'est le sens de l'existence et le sens de l'amour. On donne caresse. On sait ce que ça signifie. C'est l'expérience affective, la caresse. Le chaud et le froid, c'est très affectif. Et c'est ça que dénote le toucher. Vous voyez, Platon se séparait des sensations. Aristote a un double atavisme, celui d'Héraclite, celui de Parménide. Et au fond, toute la philosophie grecque a toujours été dans cette distance du mouvement. Les Grecs aiment le mouvement. Et on voit dans la sculpture grecque, à la différence de la sculpture égyptienne, c'est très significatif. Au musée d'Athènes, c'est remarquable. On voit la sculpture hiératique égyptienne. L'égyptienne ne donnera pas le sourire de l'enfant. Il ne verra pas l'enfant. C'est le militaire. L'homme qui domine. Aristote reprend le sens du mouvement. Et dans la sculpture grecque, c'est le sens du mouvement. Donc, regardez les sculptures grecques, c'est très net. Et c'est très extraordinaire. Le grec a le sens du mouvement, Héraclite. Mais Héraclite ne voit que ça. C'est un peu comme nous maintenant. La culture moderne ne voit que le mouvement. On est lancé dans un mouvement tellement rapide qu'on use le monde. Ça ne peut pas durer très longtemps. Cette rapidité vers laquelle on va. Saint Thomas donne ça d'une façon symbolique en disant que plus le grave descend, dégringole, plus il va vite en s'approchant du centre de la Terre. C'est très joli comme image. Qu'il y a une accélération du mouvement qui est tout à fait le signe de notre monde d'aujourd'hui. Une accélération affolante qui use notre nature humaine, n'est-ce pas ? Parce qu'on va trop vite. Et quand on allait à dos d'âne, on usait l'âne, mais on n'usait pas la personne. Tandis que quand on va en avion, on n'use pas l'avion, mais on n'use à personne. Son cœur. On a un mouvement trop rapide. Mais c'est intéressant de voir Héraclite à ce point de vue-là. Et voir qu'Aristote était impressionné par le mouvement. Pour lui, le mouvement, c'est pas du tout rien. C'est quelque chose de très important. On est enveloppé du mouvement. C'est le conditionnement humain, le mouvement. Quand un petit gosse ne bouge pas tout le temps, hein, on dit tiens, il est malade. Parce que c'est le propre du gosse de bouger tout le temps. C'est le propre du petit chien, c'est de bouger tout le temps. Comme un fou. Alors quand c'est naturel, c'est amusant. Quand c'est artificiel, c'est fatigant. Le TGV, c'est merveilleux, mais c'est fatigant. C'est trop rapide pour l'homme. C'est vrai. Quand vous regardez le paysage et que vous êtes dans le TGV, vous n'y voyez rien. Ça va vite, vite. Mouvement et par médite l'être. Mais l'être en soi, pas ce qui est. Alors, la finesse d'Aristote, c'est d'avoir repris le jugement d'existence à travers le mouvement. On ne nie pas le mouvement. Le mouvement est une évidence. Nous sommes dans le mouvement. Et il faut le savoir, c'est évident, on est dedans. Et à travers le mouvement, Aristote veut saisir ce qu'est la réalité. Ce qu'elle est dans son être. Ce qu'elle est dans son mouvement. Ce qu'elle est dans sa vie. Ce qu'elle est dans son être. Oui. Et c'est là où on voit comment Aristote, au point de vue spéculatif, arrive à ces trois considérations. Le mouvement, le vivant, l'être. Et ça, je crois que c'est la première chose qu'on doit saisir. Que de fait, cette distinction, mouvement, tout ce que vous expérimentez est dans le mouvement. Tout ce que vous expérimentez. Tout ce que vous touchez est dans le mouvement. Un mouvement qui est très long, très lent. La pierre, ça ne bouge pas beaucoup. Ça s'use très lentement, très lentement. Des choses qui apparaissaient défier le temps, qui commencent à bouger, le Parthénon par exemple. Alors vous avez le Parthénon, il est tout solide, hein. Ça commence à s'user. Alors à ce moment-là, on a le musée. Le musée met à l'abri, et puis ça garde. Nous sommes dans un monde qui, à la fois, se laisse prendre par le mouvement, et puis en même temps, est affolé par le mouvement, qui use tout. Le mouvement use tout. À travers le mouvement, il faut saisir l'être, ce qui est. Ça a été cette saisie qu'Aristote a eue de voir ces trois dimensions. Le mouvement physique, le devenir physique, le devenir vivant, immanent au vivant. Tandis que devenir physique est purement extérieur, la pierre s'use. Alors toujours cet exemple que saint Thomas a repris du reste. Saint Thomas était très attentif à ça. Une pierre, elle se creuse lentement, pas artificiellement, naturellement. Elle se creuse lentement, la goutte d'eau qui tombe. Régulièrement. Et là, on assiste comme ça à des usures de pierre. Tu vois. Ça a été à l'Annonciation en Grèce, en Palestine, Nazareth, le lieu de l'Annonciation était resté intact et puis il commence. refusé. Le lieu où Marie aurait reçu l'Annonciation. C'est très curieux. Il y a des signes très caractéristiques de notre époque, de choses qui jusque-là avaient maintenu et qui maintenant s'usent. Très longtemps. Mais cette réalité profonde du mouvement, on ne peut pas l'abandonner. On la touche tout le temps. Vous touchez le mouvement. Toutes vos expériences sont dans le mouvement. Vous avez quitté votre lit et vous êtes levé. Premier mouvement, tous les jours. Hein. Tous les jours, vous faites ce mouvement, vous n'y pensez plus. Mais qu'il y a eu un cauchemar, vous y pensez. Parce que vous étiez pris dans un monde virtuel qui vous prenait complètement. Puis vous vous réveillez et dites, ah, heureusement, c'est un cauchemar. C'est pas vrai. Le monde se réveillera, ce cauchemar, c'est très curieux. Alors, le mouvement, le vivant, l'être. Bon, c'est la première chose que vous devez comprendre. Hein. Et ça, on peut tous le comprendre, parce que c'est quelque chose quand même de tangible. On a tous fait l'expérience du mouvement, on a tous fait l'expérience de l'action vitale intérieure, le mouvement intériorisé. Et puis, on arrive à faire ce jugement, ceci est. Ça, c'est vraiment l'ultime moment. Et alors, on précise, ceci est en tant qu'il est. Donc, quand on précise, quand on fait cette réduplication, to on et on, hein, la formule d'Aristote, to on, ceci est, et en tant que être. Donc, on réduplique pour bien laisser tomber le point de vue du mouvement, ce mode du mouvement, il y a quelque chose qui demeure au-dessus. Ceci est. Alors, c'est là où la métaphysique commence à naître. Et aujourd'hui, puisqu'on assiste à la métaphysique qui s'éteint, la bougie s'éteint. Puisque, une quantité de philosophes ne veulent plus de la philosophie, de la métaphysique. Donc on assiste, et c'est intéressant, d'assister au déclin de la métaphysique. Qu'est-ce qui fait encore de la métaphysique? On dit, mais c'est bien plus intéressant tout ce que je vis. Parce que je vis, je le porte en moi. Ce que je ne porte pas en moi, très bien. Aucune importance. Vous voyez comment on est égocentrique hein, à notre époque. On s'intéresse uniquement au sujet. Que le voisin brûle, tant pis. Moi, je suis à l'écart. C'est très intéressant d'assister au déclin de la métaphysique. De voir que le mouvement, de nouveau, prend tout. Et on n'arrive plus à faire cette distinction. Elle est subtile, bien qu'elle est subtile, elle n'est pas commode, mais elle est capitale. Mon intelligence est capable, avec le toucher, de dire ceci est. On peut le dire aussi quand on voit, et ceci est parce que je le vois. Mais c'est beaucoup moins certain, la vue. Les hallucinations, c'est-à-dire l'imagination qui vient entre le réel et moi. Et j'imagine, c'est très curieux, les hallucinations sont surtout visuelles. C'est très intéressant de voir les personnes qui voient et qui s'arrêtent et qui n'arrivent pas à discerner est-ce que c'est réel ou pas. Vous voyez, quand on parlait des soucoupes volantes, ça m'amusait de regarder l'expérience. On n'a jamais parlé du toucher. Personne n'a jamais touché les soucoupes volantes. On les entendait. Un bruit énorme. On les voyait. Mais les toucher ? Jamais. Tant qu'on ne touche pas, on n'atteint pas l'être. Quand je vois, et l'imagination peut, surtout quand je suis dans la disette, l'imagination alors remplit son rôle, et l'imagination se met entre le sujet et la réalité. Alors on vit dans un monde imaginaire, dans un monde virtuel, dans un monde qui remplace la réalité. Mais quand on touche, c'est différent. Ça me semble très intéressant quand on regarde l'expérience toute simple de toucher et les expériences scientifiques, les expérimentations qui se font au-delà du toucher. Vous n'avez jamais touché l'atome. Vous n'avez jamais touché. Alors, est-ce que c'est hallucination ? Il y a l'imagination qui est entre les deux. Il y a toujours quelque chose de réel, mais le quelque chose de réel prend des distances, des grossissements par l'imaginaire. C'est très curieux. Vous n'avez qu'à réfléchir sur la différence entre l'expérience et l'expérimentation. L'expérimentation, quand on cherche un problème au point de vue physique, on refait l'expérience, mais on la refait dans des conditions telles que le toucher a très loin. Plus on avance, plus l'humanité est manchot. L'humanité d'aujourd'hui, elle est manchot. On a coupé le point de vue du contact. On vit uniquement les yeux, le regard. C'est curieux, ça. Et vous comprenez, c'est très important, parce que le toucher, c'est le sens le plus affectif. C'est le toucher qui est affectif. Quand on aime quelqu'un, on le touche. Vous voyez, cette petite expérience des musées. Quand on voit une statue, une très belle statue, on la touche, on la caresse. Ah, on ne peut plus faire ça. Moi, j'ai fait l'expérience. Toucher, immédiatement, ça sonne comme si on voulait la prendre. Et on a le gendarme qui vient. Qu'est-ce que vous avez fait ? Ah, vous avez un grand péché. Vous avez voulu toucher la statue. On ne la touche pas, on la regarde. Alors quand on dit, mais tant que je ne l'ai pas touché, je ne la connais pas. Alors il vous regarde. J'ai fait l'expérience, mais exprès, pour voir jusqu'où ça allait. On coupe l'humanité du toucher. C'est extrêmement curieux. Alors, on rattrape tout avec une espèce d'imagination folle. Le toucher, c'est le sens affectif. Quand vous caressez, vous touchez. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose de donner un coup de poing et des caresses. Hein. Et des deux côtés, c'est le toucher. J'ai touché quelqu'un en lui donnant un coup de poing. Alors, quelle différence y a-t-il entre le toucher du coup de poing et l'autre toucher ? C'est d'un côté, vous arrêtez à la personne que donner la main à quelqu'un. On donne la main quelquefois comme un coup de poing, et on donne la main quelquefois comme un touche, comme une caresse. C'est très curieux. C'est le sens affectif, le plus affectif que la vue. Dans le jugement d'existence, c'est l'intelligence et le toucher. Ceci est. Si c'est uniquement par la vue, vous dites, ceci, je l'ai vu. Ah oui, vous l'avez vu. Et l'avez-vous touché? Ah, il est trop loin. Il est trop loin. Quand je touche, alors le danger du toucher, c'est que on peut non seulement toucher, mais fermer la main et avoir. On possède quelque chose par le toucher. Et quand vous prenez par le toucher et que vous possédez la chose, vous revenez sur vous à la place de regarder la réalité. Alors, vous avez la distinction qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps. Être et avoir. Première expérience, être et avoir. Prenez par la main le portefeuille et vous mettez dans votre poche. Plus vite possible pour que personne ne voit rien. Avoir. La main possède. C'est encore une expérience. Mais une expérience qui revient au sujet. Tandis que quand vous touchez simplement et vous caressez, vous ne revenez pas au sujet, vous regardez l'objet, vous regardez la réalité. Il y a une expérience. Et ça, c'est Aristote, c'est vraiment sa grande invention. Hein. C'est d'avoir vu que le jugement d'existence n'était vraiment parfaitement lui-même que dans le toucher. Parce que mon intelligence est liée à mes sens. Je dois faire la constatation. L'intelligence est liée à mes sens. Et elle est liée à mes sens de cinq façons différentes, puisque j'ai les cinq sens. J'ai donc, dès le point de départ, cinq expériences autres. Voyez comment la diversité est première, l'altérité est première, tandis que quand vous commencez par le sujet, ah, c'est le sujet qui prend tout, l'avoir. La philosophie de l'être et de l'avoir. Et c'est vrai, c'est très caractéristique. L'avoir, c'est le sujet. Le sujet seul. Oh, quand je touche seulement, c'est ce que j'essayais d'expliquer à ce garde du musée. Quand je touche, je ne veux pas posséder, je touche. Et que pour vous, tout de suite, le toucher, c'est l'avoir. Parce que je touche cette statue. C'est pas, ça veut dire que je veux la voir. Non, pas du tout. J'aime presque mieux de pas la voir. Parce que je la regarde. Et je la touche. Vous voyez, des expériences très simples, hein, mais qui sont capitales. Commencer une philosophie par la vue, ou commencer une philosophie par le toucher, c'est tout autre. La vue, je veux voir. Toucher, je respecte l'autre. Et il y a quelque chose d'autre que la voir. Il est présent, je le respecte. La philosophie d'Aristote commence par le toucher. Ceci est. Alors, vous voyez, c'est très simple. l'humanité d'aujourd'hui se coupe du toucher, au point de vue connaissance. Hein. Alors elle se rattrape du toucher d'une façon affective et d'une façon passionnelle. Si l'amour n'est plus vu dans un point de vue intellectuel, spirituel, vous laissez l'amour uniquement à la passion, le débordement. Et le toucher devient lié à la passion. Alors, il y a tout de suite, au point de vue intellectuel, de faire que le toucher soit à la base de ma connaissance philosophique. Parce que ma connaissance philosophique s'intéresse à ce qui est. Ma philosophie ne s'intéresse pas directement à ce qui pourrait exister. Ça intéresse l'artiste. Le philosophe dit, attention, attendons que ça existe. Tant que ça n'existe pas, allez-y. Perdez votre temps, cherchez. Je vous dis que vous n'y arriverez pas. C'est très très curieux et c'est très différent comme attitude, vous voyez. Celui qui se perd dans les possibles, alors la connaissance des possibles s'enracine toujours dans la vision. Nous sommes tous de notre monde, de notre époque, nous sommes beaucoup plus visuels que du toucher. Nous éduquons la vue, nous éduquons pas le toucher. Nous le laissons libre à la passion. C'est terrible, hein. Et c'est capital, ça, de voir ça, parce que c'est le point de départ. Aristote commence sa philosophie par ce point de vue du toucher. Ceci est. Ceci n'est pas. Tout ce qui n'est pas n'intéresse pas directement le philosophe. Le philosophe s'intéresse à ce qui est. C'est rude comme ascèse, hein ? C'est très rude. Parce qu'on vit dans un monde où la virtualité remplace très souvent la réalité. On vit dans des rêves. L'humanité vit d'un rêve, d'un grand rêve. Et elle croit que ce rêve est réel. Alors, vous comprenez bien, Dieu n'est pas dans un rêve. Le rêve, on a l'avantage, Dieu n'y est pas. Donc, il n'y a que l'homme. Et l'homme peut faire tout ce qu'il veut, se créer un nouveau monde à sa manière, comme il veut. La philosophie d'Aristote et celle de saint Thomas, parce que saint Thomas n'a jamais voulu faire de philosophie. Mettez-vous ça dans le crâne. Saint Thomas n'a jamais voulu faire de philosophie. Il se rapporte à Aristote. Aristote, c'est le philosophe. Saint Thomas, c'est le théologien. Mais ce théologien respecte la philosophie. Et il est très heureux qu'Aristote lui ait donné une bonne philosophie, la philosophie de l'être. Parce que je ne peux pas construire une théologie à partir de l'imagination. À partir des choses possibles, mais qui n'existent pas. Alors à ce moment-là, je ne sais plus ce qu'est la foi. La foi ne porte pas sur ce qui est possible. L'espérance porte sur le possible, mais un possible qui est promis par Dieu, et donc qui est réel. toute la différence entre le possible de moi, de mon imagination, et le possible divin. Alors ça, c'est l'espérance. Parce que l'espérance porte sur les possibles, mais un possible promis par Dieu, qui est la promesse. Et la promesse change. Et l'amour porte toujours sur ce qui est. Je ne peux aimer que ce qui est. Je ne peux pas aimer vraiment le possible. Mon intelligence, mon amour ne peut pas s'épanouir à l'égard du possible. Je rêve alors. C'est pas aimer. Rêver n'est pas aimer. Donc, cette découverte, et je crois que ça c'est très important, de bien s'arrêter au point de départ d'une philosophie qui veut étudier toute chose sous le point de vue de l'être. Le philosophe regarde tout sous le point de vue de l'être. Et il sait que sous le point de vue de l'être, c'est la seule manière pour lui de savoir s'il existe un être premier ou non. Dieu n'est pas dans le possible. Dieu n'est pas dans le possible. Donc, si mon intelligence recherche la vérité, elle recherche ce qui existe. C'est ça qu'il recherche. Parce que la vérité, c'est justement l'intelligence qui saisit ce qui est réel en tant que réel. C'est ça qu'il saisit. Et c'est ça qui l'intéresse. L'imagination ne l'intéresse pas directement. Parce que l'imagination peut très bien demeurer uniquement dans l'homme. C'est l'homme qui imagine. Dieu n'imagine rien. C'est extraordinaire, hein ? Dieu n'imagine rien. L'imagination n'est pas en Dieu. Il est la sagesse. Donc, pour découvrir la sagesse, pour découvrir l'être premier, il faut avoir découvert le jugement d'existence. Si vous n'avez pas découvert le jugement d'existence, vous ne pourrez jamais, par l'intelligence, découvrir Dieu. Ça, c'est très impressionnant. Et c'est très important. Parce que c'est le point de départ de la philosophie. Le point de départ de la philosophie de Platon, c'est quoi ? C'est pas l'expérience. C'est le beau, le bien en soi, le beau en soi. Ce sont les idées. Le bien en soi. Donc, ce n'est pas l'expérience, c'est l'intuition. Il faut bien distinguer les deux. La différence de l'intuition et la différence de l'expérience. L'intuition, ça peut être très riche, ça peut être très intéressant, mais l'intuition ne distingue pas le réel de l'imaginaire. Et donc, une philosophie qui part de l'intuition, au point de départ, c'est très bien, c'est très intéressant. Quand vous étudiez Platon, chacun des dialogues de Platon a son intérêt. Ils sont les uns à côté des autres. Il y a chaque fois une intuition qui commande tel dialogue. C'est une philosophie de l'intuition, c'est très riche. Personne. C'est très riche. samaritain. Il y a un petit peu ça qui reste. Il a été le tissu de personne, il ne faut pas l'oublier. Il s'est resté. Il a eu beaucoup de peine de se remettre à l'expérience la plus pure. L'expérience la plus pure, c'est l'expérience qui dit « ceci est », simplement. Ça ne peut pas être plus pur que ça. C'est une réalité qui existe, mais dans cette réalité qui existe, vous regardez son être. Elle existe. C'est évident que le caillou, la pierre, existe. Son être, c'est pas commode, hein, de le saisir. La pierre existe, oui, la pierre existe. Donc, son être est collé à son mouvement. Et elle existe dans le mouvement. Et quand le mouvement se termine, elle n'existe plus. Elle se corrompt. Toutes les réalités que je vois, elles existent dans le mouvement. La physique, étudie le mouvement physique, son existence est dans le mouvement. Elle existe dans le mouvement. La vache, comment existe-t-elle? Elle existe dans sa vie. Est-ce qu'elle dépasse sa vie? Non. Oh, c'est curieux. Et l'intelligence est capable de dépasser la vache. Oui. Puisque je peux arriver à faire la distinction entre l'homme et la vache. C'était très intelligent de faire ces différences. Et beaucoup d'hommes n'arrivent pas à distinguer l'être et le vivant, l'être et la vie. Parce que la vie, c'est dans l'immanence. Ah, l'immanence, c'est beaucoup plus riche que les choses de l'extérieur, puisque c'est moi. Ah oui, c'est moi, mais je ne suis pas tout. Il y a des êtres qui ne sont pas moi et qui sont peut-être beaucoup plus riches que moi. J'arrive à distinguer le vivant de l'être, ce qui est. Et dans le monde physique, dans le monde des vivants, c'est pas commode, mais je peux quand même arriver à distinguer, c'est que je suis un vivant très particulier, un vivant très exigeant, plus exigeant que la vache. La vache, vous lui donnez à manger, ça lui suffit, elle donne du lait. L'homme, vous lui donnez à manger, ça ne suffit pas. Dans l'idée, il pense. Qu'est-ce que c'est que penser? Penser, c'est dépasser la vie. La vie végétative, la vie animale. Vous pensez à quoi? Vous pensez à vous? Ah oui, je pense à moi. Mais je ne pense pas seulement à moi, je pense aussi à l'autre. À côté de moi, il y a quelqu'un qui existe. Je pense à lui et je le connais tout en n'étant pas lui. Ah, c'est curieux. Il m'échappe et je le connais comme l'autre. Et toutes les réalités, je peux regarder leur manière d'être, non vivant, vivant, et au-dessus, je saisis leur être. Il faut arriver à saisir ce qui dépasse le vivant, ce qui est avant la vie. Plus radicalement que la vie, la vache existe. Et j'existe aussi. Et j'existe d'une autre manière que la vache, puisque j'existe en pensant. Ah, tiens, une modalité nouvelle. Et ma pensée, dans ce qu'elle a de plus ultime, de plus radical, c'est une pensée qui regarde l'être des choses. Cette chose existe. Je vois donc que saisir le jugement d'existence du point de vue de l'être, ceci est en tant qu'être. C'est ce qu'il y a de plus profond dans mon intelligence. Arriver à un jugement d'existence qui est plus radical que la manière particulière dont ces réalités existent. Elles existent comme une vache, elles existent comme un homme, la diversité, elle existe comme une pierre. Je vois la diversité énorme du jugement d'existence. Et c'est tout simple. Si la pierre existe, et moi j'existe, mais je n'existe pas comme une pierre. Il y a une différence entre le jugement d'existence « ceci est » et « je suis ». Je vois donc dans le jugement d'existence lui-même une très grande diversité. Et ça, je crois que tout le monde peut le saisir. Hein. C'est tout simplement réfléchir sur la diversité de mon jugement d'existence. L'herbe existe pour la vache. Mais c'est pour la vache. Et quand il ne pleut plus, l'herbe se fane et la vache ne mange plus. Et par le fait même, il n'y a plus de lait. Et on est obligé de faire vivre la vache avec des choses qui ont été asséchées, qui ne sont plus très bonnes, et le lait s'en sent. Le jugement d'existence, tout le temps. Quand vous voyez des nouvelles qu'on vous donne, vous demandez, est-ce que c'est vrai ? Ah, vous voyez ? Il y a quelque chose de particulier, c'est que vous-même, vous pouvez savoir si votre jugement d'existence est vrai ou n'est pas vrai. Et aujourd'hui, très souvent, on ne fait plus cet acte réflexe pour savoir si c'est vrai. Du fait que c'est dit, c'est vrai. Ça a été dit, c'est vrai. Il n'y a jamais de fumée sans feu, donc c'est réel. On dit ça. Donc on ne discerne plus la réalité de ce que les hommes disent. Et ne discernant plus la réalité de ce que les hommes disent, on ne peut plus arriver à l'existence de Dieu, c'est l'homme. C'est très étonnant, vous voyez. C'est par ce jugement d'existence qu'on voit le niveau de l'humanité. Si l'humanité cherche vraiment à découvrir ce qui est vrai, ou est-ce que l'humanité se contente une auto-réflexion, ce que l'homme dit, et non plus ce qui est vrai. La philosophie ne commence pas sur ce que l'homme dit, ça c'est l'histoire. C'est l'histoire. L'histoire se contente de ce que l'homme dit. Si c'est vrai ou pas vrai, c'est autre chose, mais ça a été dit. considère que c'est son intérêt. Tandis que le philosophe cherche ce qui est. Jugement d'existence. Donc, arriver à saisir le jugement d'existence dans toute sa pureté, dans ce qu'il a de propre. Et c'est évident que c'est à l'égard de ce qu'on dit, de ce qu'on a dit, que le jugement d'existence est quelquefois enfoui par le dire de l'homme. Et l'homme aime ça, puisque le jugement d'existence ne lui appartient pas. C'est le respect de la réalité. Tandis que ce que les hommes disent, ben, c'est un avoir. Vous voyez, l'être est l'avoir. Et on vit de l'avoir. Sûrement que dans le monde d'aujourd'hui, arriver à un jugement d'existence dans toute sa pureté, c'est très difficile. Parce qu'on est tellement habitué à vivre de ce que les hommes disent. Oui. On se contente de ça. Aristote dit cela, donc c'est vrai. Non, c'est pas vrai au point de vue philosophique. Tant que vous-même, vous n'avez pas fait l'expérience. Aristote nous apprend à faire l'expérience. Il ramène à l'expérience ce que lui-même dit. C'est pas ce que je dis qui est la philosophie. Non, c'est ce qui est. Et c'est de connaître ce qui est. Or, très souvent, on se contente, au point de vue philosophique, de ce que l'homme a dit, ce que tel homme a dit. Ça, c'est l'histoire. Donc, la grande différence qu'il faut arriver dès le point de départ à comprendre la différence entre le point de départ d'une philosophie réaliste, une philosophie réaliste part de ce qui est. Donc elle ne part pas de l'homme, de ce que les hommes disent, elle part de ce que les hommes sont. Ce qu'ils sont. Jugement d'existence, l'être. Vous voyez, je crois que quand on est devant une philosophie, il faut toujours chercher son point de départ. Le point de départ. Parce qu'une philosophie s'est développée dans le temps. Alors, qu'a été son point de départ? Certains philosophes le disent ouvertement. Aristote dit ouvertement, le point de départ de la philosophie, c'est ce qui est. C'est la réalité qui est son point de départ. Ce n'est pas ce que Héraclite a dit, ce que Parménide a dit, ce que Platon a dit. Oui, ça l'intéresse. C'est intéressant de savoir ce que Platon a dit. C'est intéressant de savoir ce que tel philosophe. Mais étudier ce que le philosophe a dit, ce n'est pas de la philosophie, c'est de l'histoire. Il faut bien, aujourd'hui, où l'histoire tend à remplacer la philosophie. Ça, c'est une évidence. On n'a qu'à écouter. Puisque on croit que même l'histoire peut nous donner une sagesse. La sagesse, c'est atteindre ce qu'il y a d'ultime dans la réalité. C'est de considérer ce qu'il y a d'ultime dans la réalité et de connaître ce qu'il y a d'ultime dans la réalité pour voir toute chose dans la lumière de ce qu'il y a d'ultime. Si on ne voit pas la différence entre ce qui est et ce que les hommes disent, on n'atteindra jamais la sagesse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est la réalité ultime, la réalité première. C'est ce qui m'intéresse. C'est d'atteindre ce qui est le philosophe. Hein. En tant que philosophe, c'est ça qui l'intéresse. Et de voir si ce qui est peut se suffire à lui-même. Est-ce que ce qui est, ce que j'expérimente, se suffit à lui-même? Ou est-ce qu'au contraire, ce qui est un appel vers un autre? Découvrir l'existence de Dieu, cela ne peut se faire que par ce qui est. Cela ne peut pas se faire parce que ce que les hommes disent. Oui, je peux dire que les hommes ont toujours reconnu un certain absolu. Ça existe, l'histoire des religions. Mais je ne découvre pas ce qui est premier dans l'histoire des religions. Je découvre ce que les hommes ont dit. Et ce que les hommes ont dit, ils ont peut-être parlé de Dieu. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont dit qui est Dieu, qui est la réalité. Ils peuvent se tromper. Les hommes au Moyen-Âge, et même avant le Moyen-Âge, croyaient au corps spécial du ciel, les corps célestes. Et c'est pas vrai. Les corps célestes peuvent périr. C'est ce qui est